Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 22 ans, vous me connaissez peut-être sous le nom de Je ne suis pas jolie. Et aujourd'hui, suite aux nombreuses sollicitations, j'ai décidé de vous parler de parentalité de façon libre et éclairée dans le nid. Le nid, c'est un endroit intime, entre nous, où il n'y a pas de vérité ni de jugement, on partage simplement avec bienveillance sur ce sujet si controversé qu'est la parentalité. Attendre son premier enfant, être enceinte ou vouloir l'être, c'est un premier pas vers ce nouveau statut, celui de parent. Devenir papa, maman, père ou mère, c'est un état d'esprit, une vocation, une posture, une fonction ou une évidence pour certains. Mais il y a aussi ceux qui ne veulent pas s'y préparer et être surpris le jour J. Ceux qui se rassurent avec les livres, les conseils des proches ou ceux de la sage-femme. On dit souvent que la future maman saisit son rôle à l'instant où elle se sait enceinte. D'autres attendent de sentir leur bébé bouger ou d'entendre son cœur. Qu'en est-il du papa, de la compagne, du compagnon ou de la deuxième maman ? Laurie et Nicolas nous raconteront leur parcours pendant cette grossesse et leurs appréhensions pour le jour J. Puis, nous recevons Rachel, sage-femme depuis plus de 10 ans. Elle nous donne ses conseils pour être des futurs parents apaisés. Laurie a 29 ans, Nicolas 30. Il est professeur des écoles, elle est ingénieure en propriété intellectuelle à Paris. Enceinte de 8 mois, ils attendent un petit garçon pour le mois d'avril. Nicolas, son mari, est à ses côtés pendant sa grossesse. Ensemble, ils se préparent doucement à devenir parents et partagent avec nous dans le nid leurs doutes, craintes et questionnements. On va commencer par la question basique, mais comment est-ce que se passe la grossesse ? Quel est votre état d'esprit ? Peut-être, Laurie, si tu veux nous dire un peu.
Oui, bon, ça se passe très bien. D'un point de vue médical, déjà, tout va bien. Bon, j'ai quelques petites contractions, mais on arrive à la fin, donc du repos. Mais sinon, ça s'est très bien passé. Je n'ai pas eu de nausées particulières, un peu de fatigue les premiers mois, mais ça a été. On a préparé l'arrivée depuis un long moment. On a préparé la chambre. La valise est prête depuis déjà quelques semaines. On est prêt, quoi.
Ouais, prêt ouais. À partir ouais. À tout moment. Ouais. Et au niveau de l'état d'esprit, est-ce que la grossesse s'est déroulée comme tu t'attendais ?
Ouais, après, tu sais, t'as toujours le retour des copines et de ouais. L'entourage. Tu verras, c'est merveilleux, machin. Bon, moi, j'étais pas dans un état euphorique avec une pêche pour revendre à 10 personnes, mais ça s'est bien passé, ouais.
Bien passé.
L'état d'esprit était bon, pas trop d'inquiétude, pourtant je suis quelqu'un d'assez stressé.
Mais moi qui suis normalement très stressé, anxieux, visiblement là, je le suis pas du tout. Mais je crois que tu as oublié les premiers mois de la grossesse où il y avait une grosse inquiétude. Est-ce que ça va aller ? Est-ce qu'il va bien s'accrocher ? Est-ce que...
Ouais, ça c'était l'inquiétude.
Et puis finalement... Au bout d'un mois et demi, il n'y a plus rien du tout, au contraire. C'est très positif.
À partir du moment où tu le sens bouger, en fait.
Oui, c'est rassurant.
Ouais. Et puis ça concrétise vraiment le
lien.
Oui, le lien et puis l'état de grossesse où, quand tu le sens bouger. Et donc c'est vrai qu'au début, enfin même jusqu'à il y a encore un bon mois, dès qu'il ne bougeait pas, je le réveillais en disant « Oh, oh. !»
Ouais. T'es là.
T'es là ou pas ? Donc ouais, ce petit passage un peu stressant. Ouais.
Mais il
après...
Pas duré longtemps.
Pas dans le fait de l'accueillir, en fait, du moins.
Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous appréhendez ?
Moi, la seule chose que j'appréhende un tout petit peu, et elle va être un peu égoïste, c'est le temps pour nous, en tant qu'hommes et femmes, et en tant que, même singulièrement, individuellement, parce qu'on est quand même très actifs de chacun de notre côté. Mais après, je me dis qu'on saura faire des compromis sans aucun souci.
Moi, à part la partie médicale de l'accouchement, où, comme je ne peux pas maîtriser cet aspect, j'appréhende un peu plus. Après, non. Non, les nuits, tout ça. Non, je me dis que il y a pas de raison qu'on n'y arrive pas en fait, et que on va faire en fonction de lui, de son rythme, la façon dont il veut démarrer sa vie, et puis on verra quoi.
Ouais.
Puis on est bien entouré, on a nos parents, on a des amis. Si vraiment on flinche, donc.
Ouais, le truc c'est important, l'entourage, même dans la grossesse, tout ça, l'accompagnement et le regard qu'ils peuvent avoir.
Après, nous, nos parents sont loin. Ils sont dans le sud de la France et nous, on habite en région parisienne. Ouais. Donc, on n'est pas, ils ne sont pas là au quotidien. Et pour les petits bobos après à venir, ils ne pourront pas nous accompagner. Enfin, tu ne peux pas laisser ton fils tout de suite chez mamie ou papy.
C'est un mal pour un bien, problème, je trouve, parce que c'est aussi la solution de facilité que de laisser l'enfant chez les grands-parents.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Et ça se fait très régulièrement. Et c'est... Voilà, je pense que les grands-parents, ils ont fait leur rôle de parents. Et il faut leur donner juste l'aspect des grands-parents, les bons côtés et pas avoir gardé les petits-enfants et leur laisser leurs activités aussi, parce qu'ils sont actifs, ils sont quand même jeunes, ils sont dans la soixantaine et que
Oui.
Le but, c'est pas d'élever nos enfants à nous. Donc, après, fait mal pour un bien. Ça nous obligera aussi.
De... Bienveillants.
Ah oui, complètement.
Ils suivent la grossesse, etc. Mais.
Oui, vous avez votre place, vous, en tant que parent.
Ils ont confiance en nous, donc ils nous laissent faire. Ils nous ont laissé gérer nos études, ils ne nous ont pas forcément...
Ils font confiance.
Voilà, ils étaient là si on avait besoin, mais ils ne nous ont jamais guidés.
Ça, c'est quelque chose que vous avez envie de reproduire avec, avec vos enfants.
L'acquisition de l'autonomie, c'est quelque chose de quand même très important.
Au contraire, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous êtes complètement serein?
La majorité de nos choix éducatifs, qui sont un peu peut-être différents même de nos familles. Bon, nos parents, parce qu'il y a un écart générationnel. Mais moi, j'ai deux grandes sœurs et elles se sont moins penchées sur l'après-accouchement, peut-être. Sur la manière dont on va le nourrir, la manière dont on va le porter. Puis on est arrêté là-dessus, peu importe la vie des autres. De toute façon, c'est nous qui allons décider.
Ouais. Ça, c'est bien d'être... Et c'est hyper important, je trouve, de faire... pas front, parce qu'on n'est pas à la guerre, hein, mais d'être soudé dans son couple sur ces choix-là, parce que c'est tellement une période de vie où on entend énormément de choses, on a beaucoup d'informations et c'est tellement nouveau. D'être positionné clairement auprès de ses proches, c'est hyper important. L'éducation qu'on a reçue enfant, ça influe souvent sur notre façon d'envisager notre parentalité. Si vous deviez décrire un petit peu votre enfance, qu'est-ce que vous diriez ?
On a une éducation assez cadrée. Moi, mes parents, ils m'ont fait voyager, amener au théâtre, dans les musées. Ils m'ont beaucoup éduquée, culturellement parlant. Après, moi, j'ai souvenir d'avoir été pareil, libre de mes choix. Un matin, je suis arrivée, je dis à mes parents, moi, je veux faire de la flûte traversière. Et mes parents ont dit, bon, ben, ok, allez, c'est parti. Bon, ok, c'était pas l'activité la plus loufoque qui existe sur Terre, mais ils m'ont jamais dit, ben non, toi, tu feras du piano. Et puis, voilà. Donc non, on était cadrés parce que voilà, pour eux, déjà l'éducation scolaire, c'était important. Mais après, ils étaient là pour nous accompagner.
Sur des valeurs et l'amour. Aujourd'hui, il y a des enfants qui grandissent dans un cadre qui est complètement déstructuré. Et c'est très compliqué de devenir quelqu'un. Et nous, on a eu cette chance, parce que c'est une chance, on ne le choisit pas.
Et du coup, dans les valeurs que vous avez reçues, si vous deviez dire voilà, les valeurs qui vous semblent essentielles à vos yeux, que vous aimeriez transmettre à votre petit garçon...
Le partage, la solidarité, l'amour, le respect, parce que c'est important ça. Et puis l'humilité, parce que ça manque un petit peu, je trouve, dans les nouvelles générations. Enfin, on n'est pas non plus très vieux, mais...
Non. Un peu d'humilité, parce qu'on a... Une des choses que je suis à peu près sûr de ne pas faire et que ne faisaient pas, par exemple, mes parents, c'est monter mon enfant sur un piédestal, sur la place publique. Ça, je ne supporte pas. Je fais du rugby et j'ai été aussi éducateur avec les plus jeunes et ils avaient tous les futurs stars champions du monde alors que c'était pas du tout le cas et ça je trouve ça insupportable.
Mais surtout qu'en plus ça crée des attentes même auprès de l'enfant. Tu vois, mon mari, il a fait du rugby pendant des années, il a commencé le rugby, il me dit je détestais ça, mais mon père voulait tellement que je fasse du rugby, c'était tellement important pour lui que je me suis forcée à le faire pour...
Alors moi j'ai eu la chance d'avoir, mon père s'est énormément projeté sur moi, sur le rugby. Mais par contre, il ne m'a jamais dit à la fin d'un match quoi que ce soit, que j'étais le meilleur, que j'étais bon. Il n'a jamais dit devant les autres quoi que ce soit me concernant. Ouais. Donc autant il s'est beaucoup projeté en cachette, et c'est ma mère qui me le dit aujourd'hui, autant il a...
Mais t'as laissé faire ton chemin.
Il m'a laissé faire mon chemin, et il m'a accompagné, mais il n'a jamais fait de moi ce que j'étais pas.
L'accouchement, bon, c'est l'événement attendu et redouté à la fois. Quel est votre ressenti à tous les deux qui doit être différent pour ce jour J?
Aussi, on en a quand même pas mal parlé. Bon, Nicolas me connaît bien sûr très bien, donc je pense qu'il a déjà anticipé les points qui vont me faire angoisser. Donc il va savoir trouver les mots pour me calmer et puis modérer mes angoisses. Donc ça déjà, ça rassure. Les cours de préparation à l'accouchement, ça te permet de te projeter dans cet événement. Et puis après, je pense qu'il y aura quand même pas mal d'impatience de découvrir enfin ce petit garçon à qui on parle à travers la peau.
Et moi, je ne vais pas avoir forcément les mêmes... Moi, ce n'est pas, pas moi qui vais faire le travail. J'ai envie d'y assister, ça c'est une certitude. Donc après, je serai là pour l'aider.
Pour l'accompagner, ça ne te fait pas peur de...
Pas du tout, non.
Non.
Vraiment, au contraire, j'aimerais bien profiter à 200%.
Ouais.
J'aimerais voir le bébé sortir, même si elle n'est pas totalement d'accord.
On a encore parlé hier soir. Ouais, c'est un truc.
Oui, oui. J'aimerais tout. Oui, j'aimerais voir jusqu'au bout.
Tu vas peut-être même l'attraper. Je sais que dans certaines maternités, ils proposent que le papa aide.
Avec plaisir.
À sortir.
Ouais, bon, mais ça va. Mais...
Ouais.
Et à la fois, ça permet au père aussi de rattraper le lien naturel qu'il n'a pas pu faire pendant 9 mois.
Et du coup, pour se préparer à cet événement, est-ce qu'il y a eu des émissions, des supports qui vous ont aidé, des livres?
Il y a eu ta chaîne.
Oui.
Ouais.
Merci.
Où j'ai trouvé surtout le manuel très illustré de l'allaitement.
Ouais.
Que je me suis empressée d'acheter. Il y a eu les conseils de ceux qui sont passés il n'y a pas très longtemps. On a lu quelques livres. Bon, après, il fallait que ça reste très scientifique, surtout pour toi,
oui.
Nicolas. Donc, c'était non, important qu'il y ait une base.
Que ce soit appuyé par des professionnels.
Oui.
Tu as besoin de quelque chose d'assez ouais. Cartésien.
Pas cartésien, mais j'aime bien quand... je sais pas, pas forcément tout le temps, mais qu'un pédiatre ou un pédopsie vienne apporter ça, la pierre à l'édifice.
Ouais.
Parce que, bon, moi j'ai fait de la psychologie de l'enfance, forcément, un petit peu dans mes études, et je trouve que c'est intéressant de voir comment ça évolue, parce que la psychologie évolue avec la société.
Ouais, et puis les neurosciences, tout ce qu'on apprend.
Et c'est quand même très intéressant. Après, pour ce qui est informatif, c'est surtout Laurie. Moi j'étais un peu plus, pas attentiste, mais je laissais faire les choses un peu plus naturellement. Mais grâce à ça, on s'est interrogé sur la DME, le portage.
L'allaitement.
Bon, les écrans, ça c'est une certitude. L'allaitement.
Et c'est vrai qu'on n'est pas tellement informé pour l'allaitement, tu vois. Je pense que voilà, le manuel très illustré de l'allaitement, je le recommande à tous les futurs parents qui souhaitent allaiter, parce que c'est réellement une mine d'informations, je trouve, très accessible auprès du personnel médical. Tout ça, c'est vrai que ce n'est pas des sujets qu'on aborde.
On a rencontré une conseillère en lactation et qui nous a expliqué que malheureusement, les sages-femmes en France ne sont pas formées pour l'allaitement.
Même les pédiatres.
Non.
Même les pédiatres.
Culturellement, c'est complètement...
Mais se reposer sur le corps médical, c'est quand même très compliqué. Nous, pour la grossesse, on a été... Moi, ma gynécologue, elle est dans Paris, mais on voulait... Nous, on tenait à accoucher dans une maternité publique, mais elle n'était pas rattachée à la maternité. On a dû prendre rendez-vous. On a vu 3 ou 4 sages-femmes avant d'avoir quelqu'un de stable. Donc, on est déjà au 4e mois. Alors, tu arrives avec toutes tes questions. Et puis, c'est pas le moment d'en parler. Ce sera l'entretien prénatal. Mais l'entretien prénatal, c'est quand on va arriver au 5e mois. Il n'y a toujours pas eu d'entretien prénatal. Donc, si tu ne vas pas chercher tes réponses ailleurs...
C'est ça.
Tu restes avec tes questions comme une andouille tout au long de ta grossesse, et puis t'es frustrée, t'es stressée. Bah ouais, internet c'est bien, mais il y a
on peut trouver
tout.
De tout.
Voilà.
C'est ça.
YouTube ça a été pas mal. Après tu te fais ton avis, mais ça te permet déjà de dégrossir un petit peu. Puis après l'entourage qui peut te donner des conseils.
Ouais. Et avant d'être enceinte, comment est-ce que vous imaginez votre vie de futur parent?
Tu sais, c'est quand t'as pas d'enfant, c'est toujours facile d'avoir un avis sur l'éducation que les autres parents peuvent porter à leurs enfants. Donc on se disait toujours, nous on fera pas comme ça, on voit pas les choses de cette façon. Mais après on se dit en même temps, quand on y sera, comment on va gérer, comment les choses vont se dérouler. Tu te projettes dans une situation qui n'existe pas encore. Donc je pense qu'aussi tu te projettes avec peut-être les bons côtés en disant, moi mon fils ou ma fille, il fera jamais ça.
Moi je sais que je l'imaginais dans une chronologie, j'ai quelques principes un petit peu vieux jeu peut-être, mais... On a commencé déjà par se construire à tous les deux, essayer de s'installer ensemble parce qu'on a vécu géographiquement séparés de par nos études. Puis une fois qu'on s'est installé, que tout allait bien, on s'est marié. Et puis maintenant, voilà, moi j'aime bien faire les choses dans cet ordre-là pour être sûr qu'il arrive dans un foyer le plus stable possible.
Qu'on soit installé dans nos vies professionnelles, qu'on ait un appartement pour le recevoir.
Vous sentir prêt de cette façon-là.
Voilà, ouais. Déjà matériellement, moi ça me rassure parce que j'ai toujours besoin d'être un peu rassurée. Et puis en plus tu te dis qu'une fois que tu as construit quelque chose à deux et que tu es bien tous les deux, je pense que tu es encore mieux pour accueillir quelqu'un.
Maintenant nous retrouvons Rachel qui est sage-femme depuis plus de 10 ans. Elle assiste les mamans, les couples et les bébés à tous les stades de la maternité. Consultations, examens et accompagnements, Rachel nous raconte comment être des parents sereins et préparés grâce à ses précieux conseils.
Sage-femme, on a souvent tendance à croire que ça s'arrête au jour J à l'accouchement, mais en fait c'est un accompagnement qui est beaucoup plus global. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça?
Tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait on voit même les femmes en préconceptionnel, c'est-à-dire avant qu'elles tombent enceintes, on les voit, on les accompagne... Et puis après, on les voit tout au long de la grossesse. Donc moi, je les vois des premières consultations jusqu'aux dernières consultations au 9e mois. Et surtout, on les voit après l'accouchement, où là, elles ont vraiment besoin d'avoir une personne qui les accompagne dans ce passage un peu délicat, quand la confrontation au bébé réel. Et on les voit même pour après le suivi gynécologique. Donc c'est vraiment, on accompagne, gérer la femme tout au long de sa vie. Et c'est ça qui est très émouvant, même nous, en tant que sage-femme, parce que on est vraiment dans l'intimité des femmes, des couples aussi, hein, parce qu'on sympathise aussi pas mal avec les papas lors des suivis.
Ouais, c'est très global. On a la chance de pouvoir suivre des cours de préparation à la naissance qui sont remboursés donc par la Sécurité sociale. Quels sont les bienfaits que tu observes pour les couples ? Est-ce que tu penses que c'est indispensable ?
Alors, la préparation à la naissance, on en parle très peu au final. Je pense que c'est quand même des femmes assez privilégiées déjà qui viennent vers nous. Et pourtant, pour moi, c'est indispensable. C'est-à-dire que c'est aussi important, sinon plus important qu'une consultation. Et oui, il y a plusieurs types de préparation à naissance, mais c'est avant tout des temps d'échange avec la maman, avec le papa, pour se préparer à devenir mère. Et ce temps d'échange, je dirais aussi de préparation psychologique et physique aussi, hein, parce qu'il y a aussi des préparations physiques, il est vraiment très, très important. Ouais. Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'informations sur ça, parce qu'il y a des femmes qui regrettent de ne pas avoir fait la préparation à la naissance. Et moi, c'est mon deuxième, je suis sage-femme. Et pourtant, je fais de la préparation à la naissance avec mon conjoint. Et ça me fait du bien de voir une sage-femme qui me rassure dans mes compétences à devenir mère. Et je pense que c'est très important.
Ouais. Tu penses que ça permet aussi aux partenaires de s'impliquer d'une autre façon ?
Tout à fait, parce que je pense qu'on construit notre parentalité différemment, la mère et le père. Et je pense que c'est des temps aussi importants pour le papa, parce que du coup, ça leur permet de trouver plus facilement leur place, à la fois pendant la grossesse et l'après-accouchement. Et ça leur donne, eux aussi, confiance en leur fusion de compétences paternelles. Quoi. Donc oui, c'est important.
Et au niveau du choix de ces préparatifs, de ces cours de préparation, c'est vrai qu'aujourd'hui, on en voit beaucoup. L'autonomie, il y a aussi la sophrologie, il y a plein de méthodes différentes. Est-ce que tu penses que c'est vraiment un choix qui doit être fait dans le couple ?
Alors, il y a des choses un peu à la mode, comme l'autonomie, l'acupuncture. Ouais. Moi, je pense que ce qui est important avant tout, c'est de trouver une personne de confiance, une sage-femme référente, qui va nous accompagner au-delà de la préparation à naissance, parce que on va pouvoir aborder les massages, mais avant tout, c'est d'avoir une sage-femme qui nous accompagne dans cette grande étape qu'est la maternité et qui est là pour nous rassurer. C'est vrai que c'est important d'avoir quelqu'un qui répond au jour le jour à nos questionnements évolutifs en fonction du moment de la grossesse. Quoi.
Oui, c'est ce lien, en fait, c'est vrai que le lien qui est très, très important. Et moi, je sais que j'avais commencé à avoir une sage-femme pendant ma grossesse. Je me suis rendu compte qu'elle n'était pas du tout dans le même état d'esprit que nous pour l'arrivée de notre enfant. Et ça a été difficile, mais on a pris la décision de changer. Et vraiment de trouver quelqu'un qui était pour le coup complètement en adéquation avec ce qu'on voulait. C'est vrai qu'on n'ose pas forcément, mais moi je pense que c'est hyper
changer,
important.
Hein. Je pense que c'est très important d'avoir un feeling avec la sage-femme qui va nous suivre, parce que je pense qu'il y a le côté médical, mais il n'y a pas que le côté médical. Et du coup, si à un moment donné on sent que la prise de contact, ça ne va pas fonctionner parce qu'elle n'est peut-être pas en phase avec nos attentes, il ne faut pas hésiter à changer, tout à fait.
Qu'est-ce que tu peux conseiller aux futurs parents ?
Alors moi, avec mon regard de sage-femme, la priorité quand on est enceinte, c'est d'être bien, d'essayer de prendre soin de soi. Et donc prendre soin de soi, ça va peut-être être faire des séances de yoga, des séances d'aquagym, peut-être d'avoir un temps d'échange avec la sage-femme à un moment donné sur, un sujet qui nous angoisse, la césarienne ou l'épisiotomie. Donc avant tout, c'est prendre soin de soi et physiquement et psychologiquement, enfin psychiquement, pour arriver dans les meilleures conditions, et physiques et psychiques, pour l'arrivée de son bébé, quoi. Et c'est ça la grande priorité, je pense.
Ouais.
Il y a des femmes qui vont dire, moi je préfère pas faire de préparation à naissance, parce que au contraire, ça va peut-être m'angoisser. Il n'y a pas une bonne manière de se préparer, je pense.
Non, c'est vraiment ce qui nous correspond, et prendre le temps de se connaître aussi. Et,
tout à fait, et puis je pense qu'il y a des femmes, par exemple, qui arrivent, quand on pose la question, est-ce que vous souhaitez une péridurale ou pas ? Moi, je pose toujours la question, quelle est... comment vous placez par rapport aux contractions, à la douleur d'accouchement. Les femmes qui, au début, disent « Ah si, moi, je veux une péridurale, absolument. » Et puis après, avec la préparation à naissance, on va leur faire réfléchir sur la péridurale, sur la liberté de posture. Et après, elles disent « Ah, finalement, Rachel, avec votre sens, maintenant, je me suis laissé des portes ouvertes et je m'autorise peut-être à accoucher sans péridurale. » C'est ça, au final, aussi, la préparation à naissance, c'est pas sortir un peu de ces préjugés, parce qu'on est forcément un petit peu marqué par notre histoire familiale, et puis arriver à son propre projet par rapport à l'arrivée de son bébé. Quoi.
Moi, c'est vrai que j'avais la demande, la volonté avec mon mari d'avoir un accouchement le moins médicalisé possible, parce que le côté médical me faisait plus peur qu'autre chose, et j'avais envie d'être dans un environnement serein. Comment est-ce qu'on se positionne en France vis-à-vis de l'accouchement ?
Alors, c'est vrai qu'en France, on a de plus en plus de demandes comme la tienne, d'accouchement accouchements, de femmes qui veulent un accouchement le moins médicalisé possible, c'est-à-dire sans péridurale, où elles puissent être libres de leur mouvement. Et donc, de plus en plus de maisons de naissance vont s'ouvrir, j'espère, dans les années à venir. À Paris, il y a le CALM, par exemple, qui veut dire « comme à la maison ». Certaines maternités, par exemple, comme des CARE, vont ouvrir des unités physiologiques pour répondre à la demande des femmes d'accoucher sans péridurale. Et ce qui est important, je pense, voilà, c'est d'avoir une offre de soins assez diversifiée pour répondre aux attentes des mères. Mmh. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, peut-être qu'en France, il manque un petit peu de place en maison de naissance, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes au CALM, et je sais que les sages-femmes n'arrivent pas à y répondre.
Alors, un allaitement réussi, c'est très souvent un allaitement qui est bien accompagné et bien informé. Comment est-ce que les couples qui souhaitent allaiter peuvent se préparer pendant la grossesse afin d'être un peu plus zen?
Alors, je pense que c'est bien de faire une séance sur l'allaitement. Mm-hmm. Voilà. Y a des petits films sur l'allaitement. Par exemple, moi, je passe lors des séances de préparation à la naissance. Et après, c'est vrai que l'allaitement, même si on a été bien informé en amont, c'est vraiment expérimental, l'allaitement. Donc, il faut le vivre soi-même. Mm-hmm. Et comme n'importe quel apprentissage de la vie, il faut se connecter avec son bébé, il faut être en phase avec son bébé. Donc, il va y avoir un petit temps d'adaptation qui change selon les femmes. Et c'est vrai que l'allaitement, c'est naturel, mais c'est pas inné. C'est pas inné. Et ça, c'est important de le rappeler aux femmes. Je pense qu'il fait la différence entre deux femmes, c'est aussi la motivation. Et ça, c'est important d'être très motivé quand on souhaite allaiter. Et se faire confiance.
C'est vrai que moi, je voulais absolument allaiter. J'ai été informée parce que le sujet me plaisait beaucoup. Mais quand je me suis retrouvée à la maternité, j'avais en face de moi des personnes qui n'étaient pas forcément très très informées, certaines plus que d'autres. C'est impressionnant en fait quand on est confronté à une équipe médicale où il y a des avis qui divergent et on a beau être motivé. Moi je sais que j'étais contente d'avoir ma conseillère en lactation qui était aussi sage-femme et qui a su m'aider, mais surtout me dire... Faites-vous confiance si vous le ressentez comme ça, écoutez-vous. Et c'est vrai que maintenant, quand j'en parle avec les jeunes femmes, j'ai tendance à leur dire n'hésitez pas à demander de l'aide et n'hésitez pas aussi à écouter votre bébé et à vous écouter, même si, encore une fois, oui, c'est pas du tout inné, en fait. On nous met une sacrée pression, mais en fait, quand on se retrouve devant, c'est vrai qu'on est un peu perdu. Et au niveau des doutes et des craintes que peuvent avoir la future maman, est-ce qu'il y a des techniques naturelles, on en parlait un peu tout à l'heure, pour justement, pendant la grossesse, s'apaiser?
La sophrologie, le yoga, l'hypnose aussi, qui est de plus en plus pratiquée, l'acupuncture, donc il y a plein de médecine douce, de choses qu'on peut faire, l'homéopathie, Et puis si la mère est vraiment très angoissée, pourquoi pas après aller consulter aussi une psychologue, c'est pas forcément... parce que là, la grossesse réveille des choses, donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire plein de choses, et c'est un moment dans sa vie de femme où il faut vraiment prendre soin de soi, donc se dire, là je suis stressée, je suis angoissée, je vais essayer de prendre soin de moi un maximum, et peut-être la coupure avec le travail aussi, parce qu'il y a certaines femmes qui ont quand même des travails aussi assez anxiogènes, des rythmes de vie assez soutenus, avec des grosses horaires, et donc peut-être c'est le moment de revoir un petit peu son quotidien.
Oui. Les congés maternité, en France, comparé à certains pays, on a un peu de temps, comparé à d'autres, on en a beaucoup. Tu penses que la durée du congé maternité, elle est idéale pour les parents?
Alors moi, je pense qu'il est trop court en postnatal, ça c'est sûr, en prénatal aussi. Tout dépend du travail de la femme, en fait. Il y a des femmes qui ont des bonnes conditions de travail, où elles peuvent faire du télétravail, où la hiérarchie est très compréhensive, donc pourquoi pas continuer à travailler jusqu'au congé maternité. Puis d'autres pour qui c'est vraiment très difficile, et dans ce cas-là, je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire une coupure avec le travail pour se protéger, parce que du coup, c'est trop anxiogène pour la mère.
Donc l'accompagnement, il ne s'arrête pas à la grossesse, du coup, on en parlait tout à l'heure, ni à l'accouchement. Comment il se met en place, cet accompagnement?
Alors en général, c'est des mamans qu'on connaît déjà pendant la grossesse, donc dès qu'elles accouchent, elle nous appelle ou elle nous envoie un petit message et on est toujours très heureuse d'apprendre l'arrivée de ce bébé. Et puis du coup, en fonction de leur attente, de ce qu'elles souhaitent, on organise le retour à la maison. Et en général, on vient les voir dans les 2 jours qui suivent la sortie de la maternité, à la fréquence comme elles le souhaitent. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui veulent qu'on vienne une fois par semaine, d'autres 2 fois par semaine, d'autres ça va être juste une fois. Mais en tout cas, elles savent qu'on est là pour elles et c'est ça qui est important et qu'elles peuvent nous appeler. Et puis on les accompagne, on vient à leur domicile. Généralement, c'est le premier mois, parce qu'après, je pense que la femme peut à nouveau être un peu plus mobile, venir se déplacer au cabinet de la sage-femme. Et c'est vraiment des temps qui sont importants, où on est là pour elle, pour le bébé, pour le papa. On fait vraiment un examen du bébé. On va faire tout l'examen clinique, peser le bébé, vérifier que voilà qu'il va bien, et puis l'examen clinique aussi de la maman, les accompagner pour l'allaitement parce que c'est un temps aussi pour l'allaitement, et quand on vient vraiment en certain temps en général. Hein.
Ouais. J'ai fait un sondage auprès de ma communauté sur les réseaux et la plus grande crainte des futurs parents, bah, c'est de ne pas arriver à gérer les nuits, hein, les fameuses nuits, et les pleurs. Quels peuvent être les conseils à ce sujet ?
Alors, c'est vrai que c'est la difficulté, c'est les pleurs. Et c'est vrai que je pense que les pleurs du nouveau-né, ça n'a rien à voir avec les pleurs d'un enfant comme son petit Gaspard qui a un an. C'est plutôt, je dirais, des cris pour manifester qu'ils sont là. Et il faut, je pense, arrêter de les interpréter tout le temps sur le versant négatif parce que ça stresse beaucoup les parents. Par exemple, quand on change la couche d'un bébé, il va se mettre à pleurer parce que c'est la nudité, c'est quelque chose de nouveau, c'est une sensation nouvelle. Donc, c'est à nous, en tant que parents, de les sécuriser au fur et à mesure d'accompagner. Donc, je pense que c'est important d'avoir un vrai temps lors, justement, des temps de préparation à la naissance sur les pleurs. Moi, je saoule les parents avec les pleurs du nouveau-né parce qu'il faut être préparé à ça, parce que c'est vrai que c'est très difficile. Moi, en tant que sage-femme, j'étais préparée parce que voilà, je vois des couples au quotidien, mais c'est vrai que la confrontation avec mon bébé, en effet, qui pleurait, c'est pas toujours évident de se dire, bah oui, c'est normal, c'est un bébé, il pleure.
Ouais.
Il faut vraiment rassurer les parents sur les pleurs du nouveau-né pour pas les interpréter tout le temps sur le versant négatif. Alors après, il y a différents types de pleurs, mais je pense que ça va pas du tout être les mêmes pleurs un nouveau-né qu'un enfant qui a 3 mois ou un an.
Il y aurait certains livres peut-être ou bon, émissions qui semblent pertinents pour les futurs parents s'ils souhaitent s'informer.
Alors moi j'ai souvenir d'un pédiatre qui avait dit très justement à une maman qui était très anxieuse et qui voulait lire beaucoup de choses pour voilà, être la meilleure mère possible. Et il lui avait dit mais madame on n'apprend pas dans les livres à être mère. Et c'est vrai qu'on n'apprend pas dans les livres à être mère au final. On va ressentir les choses avec son enfant et on peut prendre les conseils des uns et des autres. Donc, c'est vrai qu'autour de la naissance, il y a plein d'ouvrages. Je ne pourrais pas en donner un précisément parce que si vous venez dans mon cabinet, vous ferez plein de livres.
Bibliothèque.
Mais plein de bibliothèques. Mais c'est vrai qu'ils vont correspondre au questionnement des différents, à un moment donné, des parents. Mais je pense qu'avant tout, je pense qu'il faut mieux aller à une séance de préparation à naissance avec une sage-femme qui va donner une information objective au final que de lire beaucoup de choses. Il y a Intime Naissance, il y a plein de choses qu'on peut lire. L'accouchement orgasmique, mais voilà, je pense qu'au final, c'est aussi bien. Voilà, et puis après, d'enrichir sa réflexion avec des livres.
Oui, c'est vrai que les deux peuvent être.
Mais un film dont on parlait des films, Le Premier Cri, par exemple, je trouve que c'est un très, très beau film parce que ça montre la naissance à travers différentes cultures. Et c'est vrai qu'on se rend compte que nous, en France, on fait d'une certaine manière, mais que dans d'autres pays, on fait de d'autres manières et qu'on n'a pas la science infuse en France. Et c'est intéressant parce que du coup, on se dit, bah oui, toujours, tous les temps, les femmes, elles accouchent de différentes manières. Et du coup, ça nous fait réfléchir sur nous, notre propre façon, notre système hospitalier, notre façon d'accoucher, quoi.
Merci d'avoir écouté Le Nid. Vous retrouverez toutes les informations de ce podcast dans la description. N'hésitez pas à nous noter sur iTunes et à nous faire tous vos retours. On a hâte d'avoir vos commentaires. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode.